Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Et à tous et bienvenue dans ce 50e, déjà 50e, on peut déjà s'applaudir. 50e oui numéro de C'est la faute à Mamette. Au programme ce soir, on va donc frissonner, on va avoir peur, on va même vous parler du futur ainsi que des creepypastas, hein. Vous le savez, on réexpliquera un petit peu le principe tout à l'heure. Donc, autour de la table, tout le monde est là, sauf un certain Sushi, hein. Je crois qu'il a disparu et je crois qu'il commence à hanter un petit peu l'émission. Ouais. Je détecte un petit peu sa présence, il y a des choses...
Il fait Halloween à sa manière et c'est voilà. Quand même une putain de manière.
C'est quand même assez intéressant, en mourant comme ça, aussi bizarre. Que ça.
RIP in peace,
Sushi. Autour de la table, donc presque tout le monde est là et tout le monde a plein de choses à vous dire. On commence par Ferdi. Bonjour Ferdi, comment ça va?
Ça va très 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 bien aujourd'hui. On se sort d'Halloween.
Parfait. On a également le barbu, on va dire le seul, l'unique.
Barbos, c'est bien moi.
Comment vas-tu Tom?
Eh ben salut Julien, salut à tous. Ça va très très bien.
Parfait.
Une bonne Halloween.
Super. On a également notre technicien qui est là et vous le voyez hein, de plus en
il
plus
existe,
souvent.
Il existe de plus en plus.
Il fait des dabs et tout comme un enfant.
Il a accédé au nouveau plan de conscience.
C'est moi.
C'est à peu près son âge.
Exactement.
Effectivement, et toi aussi tu es là, hein, tu fais des quiz régulièrement et
Madame
animatrice,
Madame Le Perse.
Effectivement, elle est là aujourd'hui pour remplacer Sushi, en tout cas pour faire une quatrième présence.
Bonjour Manon.
Bonjour.
Très bien. Alors, du coup, est-ce qu'on aura des chroniques aujourd'hui? Oui, on va parler de Assassin's Creed Origins.
Pourquoi t'as toussé?
Un jeu Ubisoft.
Assassin's Creed Origins. On va donc en parler, on va voir un petit peu ce qui a pu se passer dans ce jeu. Tu vas nous en parler parce que je crois que tu es déjà une quinzaine d'heures. Hein.
13 heures précisément.
Ça te permettra de nous dire si effectivement le pari a été réussi pour Ubisoft après tout cela.
Oui.
Également, moi de mon côté, je vais vous parler de Mario Odyssey. On va revenir un petit peu sur ce jeu qui m'a marqué et aussi qui a marqué Guillaume et qui a bizarrement enjaillé Tom. Hein. Ça m'étonne de vous le dire, mais effectivement.
Ouais. Alors, en grand fan de Mario 64, là, sur quelques secondes d'essai, j'ai envie d'acheter une Switch. Ouais. Bon, ça fait quelques secondes. Mais...
Donc, on va essayer de finir de te convaincre hein, de pouvoir l'acheter définitivement.
Il y a une édition spéciale en plus.
Il y a une édition Xenoblade
Non, il y a une édition Mario Odyssey.
Spécial Mario.
Il y en aura bien une Xenoblade.
Il y a une manette spéciale Xenoblade aussi qui va sortir.
Alors, j'ai une question, tiens, voilà. Première question sur les manettes, parce que j'ai cru comprendre que. La Switch avait des nouveaux trucs de manette sur quoi on pouvait brancher la GameCube dessus.
Alors on peut brancher
sur la news de la semaine.
On peut brancher les adaptateurs Wii U GameCube qui étaient dispo sur Wii U.
Ouais.
Donc tu peux les brancher sur Switch et jouer avec tes manettes GameCube sur Switch.
Okay. Ça veut dire qu'en fait Nintendo avoue que manette GameCube c'est leur meilleure manette.
Et alors, est-ce que je peux brancher ma manette de SNES Mini qui a le port d'un Nunchuck?
Non, puisque Switch. C'est de l'USB pour le. Pour
là, c'est de l'USB
pour ce port-là en particulier.
Parce que la manette là de la SNES Mini, elle a le port du nunchuck.
Je sais.
Non, il y a pas, de.
Ça marche pas comme ça.
D'accord. Pareil, ma manette Xeno Blade.
Tu peux te la
foutre dans le cul. L'original, je peux me la carrer au...
Complètement.
Génial.
T'en auras une nouvelle à 79€
avec modération, les enfants.
Par contre, si t'as gardé tes manettes GameCube, comme tout être civilisé...
Tu devrais pouvoir, effectivement...
Pour peut-être un prochain Super Smash Bros.
Ah bah là, ça c'est... Là, à mon avis, c'est vraiment du teasing. Hein. Là, je crois que c'est simple comme teasing. On met 4 ports GameCube.
Mmh. On dit pas pour quel jeu, hein.
C'est nickel. Quel jeu pourrait jouer avec 4 manettes GameCube, ce serait...
T'imagines jouer à Super Smash Bros avec juste un bout de Joy-Con.
Ouais. Arrête, sale. Arrête, ça fait du mal. Il a dit F-Zero sur GameCube et sur une version
F-Zero de Switch 2.
Non, arrête.
Ça me fait mal.
Ouais,
c'est
sale.
Effectivement. Voilà, donc toi tu veux nous parler de Divinity 2, ouais. Ferdi.
Fait Divinity Original.
Moi aussi j'ai un 2 à parler. J'ai fait le début de Wolfenstein 2.
Ah, je suis curieux d'entendre ton avis.
Sur une heure et demie de jeu.
Ok, on va directement du coup passer aux news histoire d'évacuer déjà.
Et c'est parti,
déjà, tout ça,
on
c'est
lance
parti.
Le jingle des news. C'est parti.
Ok, on commence donc les news. On va commencer directement par une petite news.
La mienne, c'est
sur
rapide.
Je vais commencer pour une fois sur Switch. Rocket League sort dans 2 semaines. Voilà, youhou. Vous allez pouvoir profiter de Rocket League partout, dans le métro,
dans les chiottes.
Et
comme ils l'ont annoncé, normalement, c'est tout. Tu vas pouvoir jouer contre les joueurs de tous les autres.
Sauf PS4.
Que Sony, c'est des nazis.
Ouais, mais Rocket League dans le métro, du coup, non. Finalement, tu peux pas. Ah, tu vas jouer contre des bots, du coup.
Oui, c'est ça, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal d'y jouer dans son lit aussi. Hein, ouais, voilà. Plein.
Ou même quand
c'est vrai, c'est mieux pour dans
un
chat ou dans son lit.
Même un petit coop local. Enfin.
Avec chat vocal pour entendre plouf.
C'est vrai que oui, on pourra jouer à deux avec les Joy-Con et en posant juste. En splitté, non, ça va être. C'était le jeu qu'il fallait avoir.
Là, pour le coup, moi, je serais plus mitigé parce que qui a joué beaucoup ?
Moi, j'ai joué une trentaine d'heures.
On est d'accord qu'il faut quand même pas mal de visibilité. Donc, est-ce que t'as pas peur qu'en splitté local,
je ferais du splitté, mais sur télé. Tu vois, sur du local, ça va être galère.
Je suis tout à fait d'accord. Mais splitté local,
oui, non, voilà, ou alors avec deux Switch. C'est chacun.
Alors, tiens, question sur Switch aussi. Est-ce que je peux faire du splitté un sur la Switch et un sur la télé ?
Non, parce que la Switch, faut qu'elle soit sur le dock.
Ok.
Mais c'est une très bonne nouvelle parce que Rocket League est totalement sympa.
Et en plus, c'est une édition entre guillemets Nintendo, c'est-à-dire que tu auras des véhicules Nintendo, donc Mario, Samus.
T'as un ou deux cartes.
C'est cool. Quoi.
Ils vont vraiment faire des cartes à la Mario Kart en plus, je suis sûr, certains. Mm.
Après, ce que je serais intéressé, c'est est-ce que tu peux lier ton compte, par exemple, Rocket League Switch avec ton compte Steam ou Xbox One pour récupérer, par exemple, ton level. Mm. Ça, ce serait intéressant.
Je suis pas sûr.
Nintendo, Destiny 2, tu peux pas. Le jeu vient de sortir sur PC, là, il y a pas longtemps. Tu peux pas récupérer ta sauvegarde des consoles pour le mettre sur PC. C'est-à-dire que dans un jeu qui est censé durer 10 ans sur le temps, où t'es censé garder ton héros, ton gardien d'un jeu à l'autre, c'est-à-dire que par exemple, sur PS4, si tu le reprends et que t'avais une sauvegarde du 1, les personnages te parlent pas pareil. Ils vont te dire genre ouais, t'es un vétéran, t'es hyper fort et tout. Et alors que si tu reprends une nouvelle sauvegarde, ils vont dire ouais, le nouveau ramène ta fraise par là quoi.
D'accord. Donc
et là, du coup, sur PC, tu ne peux pas.
Ça confirme que c'est un jeu de merde.
Bah ouais, déjà,
ça confirme ça. Ouais.
Je trouve ça hyper dommage.
Je me souviens que les Mass Effect, c'était possible quand t'avais ta sauvegarde PC, tu pouvais jouer sur la version Xbox 360, tu pouvais transférer tes données.
C'est ça. Et là, je trouve ça hyper dommage.
Je me souviens qu'à l'époque, en liant ton compte Xbox, en fait, Microsoft, Xbox, tu pouvais faire ça, tu pouvais récupérer et continuer ta partie sur console.
Et là, du coup, il y a moyen ni sur les sauvegardes PS4, ni sur les sauvegardes Xbox.
D'accord.
La petite rondelle.
Tu l'as dans l'os.
Deuxième news, on peut noter que la bataille de fin d'année est déjà arrivée. Hein. On a eu notamment ce 27 octobre où sortait le même jour Assassin's Creed Origins, Wolfenstein 2 et Super Mario Odyssey. Je pense que la bonne saison est lancée là pour le jeu vidéo.
Ça sent très bon, ouais.
Quel jeu n'est pas sorti dont vous avez encore bon espoir?
Beyond Good and Evil.
Star Citizen.
Très bien.
Far Cry 5, j'en attends beaucoup.
Ah, pareil, j'en attends énormément.
Tu as des rednecks vraiment bien.
Bah là, il y a eu la PlayStation à Games Week. Donc,
j'allais le dire.
Ouais, et ils ont montré des jeux. Donc ils ont montré rien d'inédit vraiment. Ils ont montré donc, une nouvelle bande-annonce de Last of Us 2 qui montrerait qu'on pourrait jouer avec d'autres personnages en fait. Qu'on pourrait suivre d'autres personnages. Et ça a l'air.
Ah, c'est super mal. Je pense pas, tu vois juste des personnages.
Ils auront une importance dans l'histoire.
Ça sort quand ? Ça sort pas à Noël, ça ? Je l'ai pas à Noël, celui-là.
Ah non. Okay.
Ah bah non, c'est dans 5 ans. Pardon, c'est Sony. C'est dans 2-3 ans. Voilà, faut être patient.
D'accord.
Et ils ont montré un bout de gameplay de God of War, du prochain. Ouais. Un vrai
Spider-Man.
Mais attends, du coup, chez Sony, on a rien cette année. On a quoi de vraiment exclu chez Sony?
Horizon Zero Dawn, ils ont fait que ça.
C'est tout, il n'y a rien.
Mais exclu qui est pas sorti.
Grand Turismo Sport qui est sorti il y a pas longtemps.
Qui est sorti exclu Noël, c'est quoi?
C'est Grand Turismo Sport.
Mais ils vont avoir, je sais pas. Je sais que normalement Microsoft devrait avoir PUBG, puis un nom de Battleground.
Il est sorti, me semble.
Il est sorti,
ça y est. Sur Xbox One.
Il y a Fortnite aussi, du coup.
Et Fortnite.
Et Forza Horizon 3, du coup, qui vient de sortir.
Non, Forza Motorsport 7.
Horizon 3, ça fait longtemps.
Alors, Motorsport 7,
pardon. Non, Horizon 3, c'était l'année dernière.
Stalker 3.
Vous comprenez, je m'y perds un petit peu.
Ultimate Edition Turbo.
Donc, effectivement, il n'y a que Nintendo dans tout ça qui a vraiment des trucs de taré.
Et les éditeurs tiers.
Ouais, les éditeurs tiers.
Tu as dit que Wolfenstein, par exemple, sortait, le 2 sortait, il va sortir sur Switch au courant de l'année aussi. Donc, la Switch va aussi avoir, pour une fois, contrairement à la Wii U.
Et Doom qui arrive aussi sur Switch.
Ils vont avoir
Doom sur Switch.
Doom sur Switch, c'est cool, mais ce que je veux dire, Wolfenstein 2, c'est un nouveau jeu.
Parce
que là, ils vont avoir pratiquement un jeu à éditeur tiers qui sort en même temps que les autres, pratiquement à quelques décalages près.
Alors, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup, du coup, d'acheter des jeux qui ne sont pas exclusifs à la Switch sur Switch? Genre, imagine, PC et une Switch, ça vaut pas
le coup. Non.
Si t'as pas de PC ni des consoles modernes.
La Switch, les graphismes de Doom ont été comparés et les graphismes sont inférieurs. Ouais. Par contre, si par exemple t'as une seule console et c'est la Switch, carrément.
Non, là, ça vaut le coup, mais imagine
mais
pas.
Si t'as deux consoles, non, ça sert à rien. Tu vois, par exemple, moi qui ai une Switch.
Stéphane.
Mettons, j'ai une Switch.
La Switch, ça me sert que. Tu vois, moi, j'ai une PS4, une Switch et un PC.
Ouais.
La PS4, ça me sert d'avoir les exclus PS4. La Switch me sert à avoir les exclus Switch.
Et le reste,
c'est sur PC parce que le PC est la meilleure console.
Je me permettrais d'ajouter que la Switch me permet surtout d'avoir des jeux que je peux trimballer partout. J'ai envie de me trimballer avec des jeux et si je. Les gens voyagent souvent aussi, vous êtes souvent en déplacement ou que vous êtes, je sais pas, en résidence étudiante et qu'il n'y a pas besoin de ramener tout le bordel. Oui. Effectivement, la Switch, ça reste quand même une machine vraiment pratique.
Oui,
De ce côté-là.
C'est ça. Ça prend pas de place. T'as pas besoin de télé pour jouer avec.
Exactement.
Ça prend pas de place, ça rentre quand même pas dans la poche. Hein. C'est ça. Pour moi, c'était ça le gros souci au départ où je me suis dit, la Switch, c'est chaud. Tu la mets dans un sac.
C'est toujours moins gros qu'une Lynx.
Tu mets pas ta PS4 dans ton sac, tu vois.
Non, tu mets ta 3DS par exemple.
Ouais, mais c'est pas pareil. Honnêtement, la Switch, c'est une console de salon qui est portable.
T'as des jeux AAA. Enfin, on en parlera plus tard, mais t'as des jeux console, quoi.
Ouais,
c'est ça. On a complètement fondu à Nintendo. On l'a pas fait exprès, c'est eux qui ont fait des bons jeux.
Est-ce qu'il y avait d'autres news du coup?
Bah oui, Star Citizen.
Vas-y, vite fait Dragon Ball Fight, Dragon Ball Z Fighter, parce que c'est le jeu que je vais vous tanner.
Non, mais tu sais, sort, on va se mettre bientôt un créneau.
Il sort le 28 février. Ils ont annoncé deux nouveaux personnages. Donc Nappa. Et Ginyu, donc du commando Ginyu.
Nappa,
c'est le chauve méchant dans Saga Dragon Ball Z qui tue 80% du roster.
L'acolyte de Vegeta.
Voilà. Et Ginyu, donc du commando Ginyu sur Freezer, donc le mec avec les postures les plus classes du monde. Hein. Les postures qui devraient être prises par tous les étudiants. Genre le dab, je suis sûr que c'est une pose que Ginyu a inventée. Et qui sera intéressant, donc il balancera des coups spéciaux avec tout le commando, donc les 4 autres personnages de son commando. Mmh. Donc le jeu a l'air bien, le jeu a prévu donc déjà une édition collector qui m'arrache le cul parce que c'est 80€ pour avoir le DLC, le Season Pass bien sûr, parce qu'ils en ont déjà prévu un avec 8 persos. Et les musiques, alors ça sera quelque chose d'exceptionnel, il faut savoir que dans tous les jeux des BZ qui sont sortis depuis toujours, en Europe, on a eu des musiques autres que les originaux du dessin animé pour cause de droit. On a toujours eu des remixes américains de techno pourrave, sur toutes les versions PS2 c'était ça. Et là, pour une fois, l'Europe va avoir droit aux musiques du dessin animé, parce que ça y est, les droits, ils ont, grâce à Dragon Ball Super, ils ont pu négocier des choses. Mais certaines de ces musiques seront disponibles en DLC et dans l'édition collector. Donc voilà, ça fait un peu. Voilà, c'est quand même une petite.
C'est quand même une époque formidable.
Voilà, c'est ça, c'est quand même une petite truc dans le. Voilà. Mais bon, ça, je vais l'acheter.
Ça sera toujours meilleur que Marvel vs Capcom une finale.
Oui, voilà. Oui, ça sera déjà plus respecté. Il y a, je sais pas, il y a encore 6 personnages qui vont être annoncés, donc je vais encore faire 6 news sur Dragon Ball Z Fighter avant.
D'accord.
Voilà.
Alors, on a quelqu'un sur Facebook qui nous dit, donc Christopher Badet, coucou mon point d'interrogation.
Ah, c'est moi.
Je peux pas vous suivre ce soir car boulot.
Ah, bah,
c'était
rien.
Très intéressant, merci beaucoup.
Bisous, Jeepers. Bisous.
D'ailleurs, dans le casque, il y a des choses bizarres hein. Depuis tout à l'heure. Moi, j'entends, je crois que Sushi essaye de communiquer depuis quelques.
Ah ouais, depuis l'au-delà.
Ça ne m'étonnerait pas.
Je crois qu'il se réveillera bientôt. Ok, on verra ça tout à l'heure.
Dernière news. Ah oui,
Star Citizen, c'était la CitizenCon la semaine dernière. Et donc c'est un peu le gros rassemblement sur Star Citizen, donc qui se passe une fois par an. Et ils avaient dit à la Gamescom qu'ils gardaient les petites choses en poche. Et donc on a vu des planètes procédurales, générées procéduralement, mais quand même. C'est-à-dire, ils disent artist driven, c'est-à-dire qu'ils laissent pas le logiciel tout faire.
D'accord.
Ils font une base procédurale et ensuite ils repassent dessus un petit coup de polish. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont montré une zone qu'on pouvait déjà visiter, qui était une ville, et ils montraient où est-ce qu'ils en étaient, du coup, à peu près 2 ans plus tard, quoi. Et donc, rempli de PNJ, un petit peu changé, etc. Vraiment super classe. Ensuite, il prend un vaisseau, et il décolle dans la ville, en fait. Il passe entre les gratte-ciels et tout, avec, pour le coup, un look très actualité, puisque ça ressemble vraiment à Blade Runner, donc hyper classe. Et ils montrent, en fait, bah, l'avancée de leur technologie procédurale sur une ville, enfin, sur une planète-ville, un peu vraiment à la Coruscant, en fait, dans Star Wars. Et c'était plutôt impressionnant. Alors, il y avait quasi que ça, en fait, parce qu'après, ils montrent un trajet, ils montrent comment est-ce qu'ils ont fait pour atteindre ce niveau de qualité-là. Et puis, il va se poser sur une autre planète avec une autre ville pour montrer voilà, la direction qu'ils prennent là-dessus. Donc, pour moi, ça manquait de grosses surprises, mais c'était plutôt classe. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo qui est vraiment très, très chouette. Et encore une fois, étendard graphique du PC, incroyable. Quoi.
Ok.
Donc, voilà.
Pour résumer, c'est un peu comme No Man's Sky, mais avec le foutre des développeurs directement.
C'est ça, directement dans le PC, quoi.
Voilà, parfait. Ça a l'air génial.
En odorable.
C'est bien, ça retarde encore la sortie de 5 ans, c'est pas mal.
En fait, non, justement, ça fait pas partie des choses qu'ils ont ajoutées, en fait. C'est ils montraient où est-ce qu'ils en étaient. Genre, regardez, là, dans la prochaine mise à jour qui sort, la 3.0, on va avoir des lunes qui sont vitales, mais il n'y a pas encore de ville dessus. Et ils disent, bah voilà, pour la 3.1, voilà ce que vous aurez, quoi.
Ou la 4.
Okay. Ou la 4, ou la 5, dans 6, 7.
Je suis désolé.
Du coup, Guillaume, tu as.
Je voulais juste dire vite fait qu'il y a eu le dernier Humble Bundle. Du coup, au premier palier, pour 1€, du coup, vous avez Oddworld, New and Tasty.
Super, super bon.
Epistory et Grégou Definitive Edition. Ouais. En deuxième palier, donc plus supérieur à la moyenne, vous avez Prototype 2, Kingdom Newlands et How to Survive 2.
Ah,
et troisième palier à 10 balles, enfin 10 dollars, 8,61€ en Europe, vous avez Wasteland 2 en Director's Cut.
Alors Wasteland 2 que j'avais acheté avec
Excellent,
Julien.
Excellent, apparemment, non.
C'est très très bien.
Je l'ai acheté à Wasteland, moi.
Non, j'avais acheté à côté de toi quand on était sorti une fois en PC. D'accord. Donc j'avais pris sur PC, je l'ai fait comme ça. C'est ceux qui ont aimé les vieux Fallout en 2D, les jeux en vision isométrique, donc vu de haut, genre les Baldur's Gate et choses comme ça, qui veulent retrouver l'esprit d'un jeu compliqué qui t'en met plein la gueule et qui te pardonne pas. Avec genre des quêtes, tu sais, t'as deux quêtes secondaires sur ta map, tu vas à l'une, t'as l'autre qui se finit, les mecs sont tous morts. C'est-à-dire qu'il y a du temps réel, il y a des événements aléatoires, si tu réponds non, et ben c'est fini, c'est définitif, etc. Donc c'est un jeu très dur, qui te tient pas par la main, qui a une ambiance de folie, voilà. Et donc, le bundle vaut vraiment le coup pour tous les jeux, même Oddworld, et puis.
Très bien.
Et même Prototype 2, qui était quand même un bon défouloir.
Ouais.
Mais un mauvais jeu.
Oui voilà.
Mais c'était. Un mauvais open world, on va dire.
Voilà.
Ça marche. On va s'arrêter là pour les news et on va passer directement aux rubriques. Et on va commencer par la nôtre, Guillaume, avec Mario Odyssey. On va reparler un petit peu de Mario Odyssey. Je crois qu'il y avait une petite musique qu'on pourrait mettre en fond, qu'on
bien
s'écoute
entendu.
Bien 30 secondes hein, pour tout le monde et pour surtout le Facebook Live qui appréciera. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Any bags or a pass, say a word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Voilà, vous avez pu en profiter, cette musique incroyable, hein, qui est le premier, finalement, générique chanté
de Mario.
Dans un Mario tous les temps. Là où Sonic avait encore la palme de quelque chose, Mario vient de lui botter le cul profondément. Alors, on va en reparler, du coup, Super Mario Odyssey, c'est la sortie, la grosse, deuxième grosse sortie de l'année hein, pour la Switch. C'est un jeu qui avait été ultra, ultra attendu. Un Super Mario, un vrai Super Mario, on n'avait pas eu depuis Mario Galaxy 2. Honnêtement, un vrai Mario 3D, honnêtement, on n'en a pas eu depuis.
Il y avait eu Super Mario 3D World, c'est tout.
Et encore, c'était à mi-chemin entre un vrai Mario et...
Ouais, c'était juste de la profondeur. Quoi.
Voilà, c'est ça. C'était pas foufou. Et du coup, on en attendait beaucoup. Alors, Super Mario Odyssey, qu'est-ce que c'est? C'est l'enfant illégitime de Mario 64 et Mario Galaxy 2.
C'est l'enfant légitime.
Oui,
c'est Mario.
Oui, c'est Mario.
Très légitime pour le coup, parce qu'il prend finalement le meilleur des deux. On retrouve cette sensation qu'on avait au début de Mario 64. Alors, c'est pas cet esprit de liberté, mais c'est surtout, voilà, cet univers
qui s'offre à toi.
Ouais, puis que tu te rends compte que tu appuies sur 5 boutons, tu as déjà fait 6 coups par hasard.
C'est incroyable. Ouais. Et j'en parlais à Guillaume hein, tout à l'heure, ça me rappelle finalement, pour moi Nintendo revient aux bases finalement. À l'époque, vous connaissez tous un petit peu l'histoire, Miyamoto avait dit, si j'ai mis un Goomba dans le premier niveau du premier Mario, c'est parce que sa tête ressemble à un buzzer, donc le joueur est forcément tenté de sauter dessus. Ça se passe exactement pareil pour Super Mario Odyssey. Tu débarques, tu te crashes directement au départ. Tu trouves cette fameuse casquette, donc Capi, qui est un petit peu l'élément nouveau du jeu. Donc
c'est le prochain personnage qui aura un carte dans Mario Kart.
Voilà, donc c'est une casquette vivante qui peut prendre soit l'aspect de différents animaux, différentes choses du décor, soit qui peut interagir avec tous les éléments du décor. Donc t'es lâché au départ dans une plaine et tu t'aperçois que tu peux lancer ta casquette. Tu l'essayes, ça allume une lumière. Voilà, tout simplement. Donc tu dis, effectivement, avec ça, je peux interagir avec différentes choses du décor. Tu commences à le lancer sur ton premier ennemi, tu possèdes ton premier ennemi qui est une grenouille, et là, tu t'aperçois qu'effectivement, tu vas devoir jouer avec ça tout au long du jeu. C'est simple, c'est cool, c'est naturel, et chaque niveau est fait de façon à ce que tu aies envie, et ça, tu peux le confirmer pour moi, hein, envie de l'explorer de manière complète. Mmh. Du début à la fin, chaque recoin, chaque millimètre de chaque niveau, tu as envie de l'explorer, parce que tu sais que chaque recoin recèlera quelque chose. C'est pas juste pour du remplissage et c'est pas juste pour quelque chose.
Alors j'ai une question pour alors moi j'ai pas eu le temps, j'ai juste survolé le jeu vite fait dans un magasin, je voulais juste savoir, est-ce que quand tu possèdes certains ennemis, t'as vraiment la jouabilité qui change? Est-ce qu'il y a vraiment quelque
entièrement
chose? D'accord.
Entièrement.
Ça, voilà, il y a vraiment. C'est pas juste, tu prends un truc, tu fais que des sauts, t'as l'impression de jouer autre chose.
Complètement. C'est-à-dire qu'à un moment, tu commences à jouer sous l'eau, et bon, le déplacement sous l'eau est pas top, comme dans tous les jeux. Et à un moment, tu vois ce qu'on appelle les chip-chip, hein, les fameux poissons, tu le possèdes, et là, tu t'y vas dans tous les sens, tu fonces à droite, à gauche, c'est super intuitif, c'est super génial. Et la force de ce Mario, c'est surtout la diversité de ces mondes. Mario Galaxy l'avait déjà, parce que tu passes de monde en monde en récoltant des lunes. Cette fois, c'est des lunes. Avant, c'était des étoiles, des soleils. On a des lunes, je pense que la prochaine fois, ce sera des comètes. du coup, tu te balades de monde en monde qui n'ont finalement aucun lien entre eux. Mais c'est finalement ça qui rend le jeu aussi fou. C'est qu'à chaque fois, t'as l'impression de découvrir une nouvelle chose et t'as l'impression de jouer un nouveau jeu à chaque nouveau niveau. Et j'ai l'impression que tout est cohérent, tous les gameplays sont réussis, c'est-à-dire que tu possèdes une grenouille, que tu possèdes même une bouche d'égout, c'est très con à dire. Ça marche, que tu possèdes un fil électrique, ça fonctionne, tu peux être tout
zip.
Et n'importe quoi.
Un zip,
tu peux être une fermeture éclair, tu peux être n'importe quoi, à peu près tout ce qui passe sur la map.
Ça me rappelle un peu Kirby aussi.
Ça rappelle un peu
quand
Kirby.
Quand tu prenais les pouvoirs de tes ennemis.
Sauf que Kirby changeait pas vraiment de gameplay, là le gameplay change à chaque nouvel ennemi.
Et on parle de combien de niveaux du coup dans ce jeu?
Bon, on l'a pas fini.
Une dizaine de mondes, je dirais.
Dizaine, c'est pas beaucoup.
Je pense qu'il y en a plus. Je pense qu'il y en a une quinzaine et qu'on va bientôt refaire un tour de...
En fait, le truc, c'est que t'as une grosse rejouabilité. Le jeu se finit en une dizaine d'heures, tu vois.
Ouais, ok.
Mais c'est que t'as une rejouabilité importante par rapport au fait qu'il y a plus de 800 lunes à récupérer. Et que, en fait, le jeu au début est très linéaire dans le sens où, t'as les lunes, tu peux changer de monde.
Voilà.
Et tu vas dans l'autre monde. Et en fait, à ce qui paraît, j'ai pas encore fini le jeu, mais à ce qui paraît, le jeu se finit. Et te fait comprendre que le plus important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et que du coup, il va falloir continuer ton voyage.
Tu viens de citer la fin de No Man's Sky, là. La première fin de No Man's Sky, l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. C'était ça, la putain de phrase de fin.
Sauf que là, c'est un bon jeu.
C'est un jeu fini, tout son sens.
Ouais. Et je pense que Nintendo a voulu déjà se faire plaisir. En fait, c'est un jeu où tu ressens le plaisir. J'en parle souvent, du plaisir des développeurs, mais là je pense que vraiment on est à 100% dedans. C'est un voyage.
C'est comme le Zelda, quoi.
C'est comme le Zelda, c'est un voyage, c'est une odyssée, du coup,
on peut le dire.
Donc, pour résumer vite fait, Nintendo a gagné
beaucoup de choses.
Ils avaient une Killer Apps, donc c'était le Zelda qui était le jeu de l'année quand il est sorti, et là. Ils sortent un Mario à la rentrée.
Un Christmas killer, quoi.
Et ils ont réussi aussi avec leur licence phare à gagner.
Exactement. En fait, c'est très dur de décrire Mario. Tu as joué quelques minutes, assez compliqué à décrire.
Non, c'est quasi comme Mario 64, un peu moins nerveux. De pas grand chose, mais moi je suis tellement, c'est ce que je disais, je suis tellement habitué à la nervosité, la responsivité. Ça bouge vraiment comme tu bouges, il n'y a pas d'accélération, de Mario 64 que forcément celui-là
mais tu verras
me paraît un peu différent
en le faisant tu te laisses
c'est très maniable
tu te laisses en fait le gameplay est tellement bien pensé qu'il est impeccable.
Ils ont bien fait de le copier, quoi. Enfin, c'est exactement. C'était moi Mario 64. Pour moi, c'est le meilleur jeu de plateforme.
On est d'accord. Toujours, que les plateformeurs n'existent plus et il arrive finalement de nulle part. C'est vraiment un titre qui est.
C'est vrai que c'est un genre à part les jeux indés. Finalement, il n'y a plus que les indés, quoi.
Qui est finalement hyper moderne, mais coincé dans son époque. Et on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il va, on ne sait pas si on en reverra un jour. Mais en tout cas, on sait qu'il est là et qu'on doit en profiter.
Donc en fait, là maintenant, ça donne une carte d'or quand ils ont annoncé Metroid Prime 4 il n'y a pas longtemps. Nintendo, t'as
Moi je suis pas d'accord avec Prime 4. Pourquoi ils ont refait un Prime en fait? Ils auraient dû juste faire un Metroid.
C'est peut-être pour l'instant aussi que le titre de teasing. Hein.
Après, je pense qu'ils vont le changer.
C'est un titre de teasing pour.
Mais non, parce que du coup, Prime, ça l'inscrit dans la timeline en fait.
Ouais,
ça veut dire que c'est avant Super Metroid.
Peut-être qu'ils vont. Je sais pas, on verra.
C'est peut-être juste pour aussi annoncer un nouveau Metroid.
Et puis non, mais c'est surtout la trilogie Prime. Enfin, si je sais pas si vous avez fait les trois, mais trilogie Prime, elle se termine à la fin du Phazon. Tu vois, il y a plus besoin. Le Prime, c'est contre le Phazon. C'est-à-dire que scénaristiquement, ça veut plus rien dire.
Oui, enfin,
j'annonce que le Metroid 2D est très bien, hein, je suis en train de le faire, il est très cool, donc faites-le aussi, mais surtout jouez à Mario Odyssey, parce que...
C'est ça, achetez une Switch.
Voilà, jouez-y, je peux pas le décrire comme ça, et je pense que t'auras aussi du mal à te dire à quel point c'est cool.
Il y a une subtilité dans le gameplay qui est extraordinaire, le jeu est
une
carré, en fait.
Une richesse, j'ai l'impression aussi qu'il est...
Il déborde de richesse,
il est très généreux.
Et tu sens que c'est un jeu où les DLC sont pas prévus, tu vois, c'est vraiment... Un bloc.
C'est vrai qu'ils ont. Contrairement aux Zelda, qu'ils avaient annoncé qu'il y aurait des DLC à la sortie, là, ils ont rien dit.
Ouais,
il y en aura peut-être. Cela dit, c'est con, parce que c'est presque les bons jeux, genre, tiens, voilà un monde supplémentaire.
Ouais, là, on aura peut-être des costumes à la thune.
Il
y aura sûrement des costumes dans des amiibo.
Ah oui, parce que
plus
tu changes de costume aussi dans celui-là.
Il y a des amiibo, donc je pense que les costumes seront
c'est
pas.
C'est purement esthétique, mais des fois, genre, il y a des personnages qui t'autorisent à rentrer dans des lieux si t'as tel costume.
Oui, si t'as la bonne tenue.
Et c'est grâce à certains costumes que le jeu est Peggy 7 maintenant et pas Peggy 3.
D'ailleurs, tu peux faire des photos très racistes.
Parce qu'on voit les tétons de Mario.
Oh là là,
oui, on le voit avec torse nu.
D'ailleurs, je précise qu'on peut faire des photos ultra racistes. Hein. Je me suis déguisé en pagne d'homme des cavernes et je suis allé me poster vers le seul homme noir de toute la série. J'ai pris une photo avec Mario qui le regardait comme ça. Voilà, je précise qu'on peut faire des trucs extraordinaires.
Le jeu le permet. Ce n'est pas nous, c'est le jeu qui le permet.
Voilà.
Ce n'était qu'un hasard. Tu t'es retrouvé comme ça à ce moment-là. Je vais prendre une photo. On va quand même voilà. Puis bon.
C'est raciste si on décide.
C'est vraiment raciste.
C'est ça. Ouais,
mais en fait, je me suis. Est-ce que le jeu va me l'autoriser? Oui, complètement. Mmh. Voilà. Guillaume, du coup, tu vas nous parler un peu d'Assassin's Creed. On va changer un petit peu de sujet.
Du coup, le même jour que Mario est sorti, le dernier volet de Assassin's Creed Origins, qui se passe du coup en 2017 dans le présent et dans le passé, il se passe en l'an à peu près 40-50 avant ou après Jésus-Christ, je ne sais plus. Vous incarnez Bayek, le dernier des Magi.
C'est chaud quand même.
Alors le Magi, qu'est-ce que c'est?
C'est dans la momie. C'est les mecs qui protègent la momie.
Qui protègent en fait le pharaon. Bayek te dira que ce n'est pas forcément le pharaon, c'est le peuple d'Égypte. Parce qu'en fait, il est contre le régime de Ptolémée et lui, il veut refaire revenir Cléopâtre au pouvoir. Enfin, il veut faire venir Cléopâtre au pouvoir. Et donc après des éléments qui l'ont conduit à vouloir se venger, il va en fait essayer de combattre une espèce de templier du passé, on va dire, parce que bon, on va pas se le cacher, hein, ça a toujours été très binaire Assassin's Creed. Et là donc en fait vous avez une liste de tueurs avec des noms d'animaux et en fait il faut que vous exploriez du coup l'Égypte pour trouver tous ces tueurs et les assassiner pour venger votre passé, on va dire, pour pas spoiler. Okay. Y a beaucoup de choses à dire, hein, sur Assassin's Creed. Déjà là, je vous ai mis une musique en fond. Alors, ce qui est très rigolo dans la musique, c'est que vous avez des thèmes, comme on peut entendre là en musique, qui sont très classiques, on va dire. Musique un peu aventure, un peu orientale. Et à côté de ça, vous avez beaucoup de musique qui m'ont fait penser à Blade Runner.
Ouais,
très dans l'électronique, dans le futuriste. Là, on l'entend pas forcément, mais je peux vous dire que moi, quand j'y ai joué, je me suis dit putain, c'est génial. Enfin, ça rend super bien en fait dans Assassin's Creed, dans le passé pourtant. Hein. Et alors, ce qu'il y a à dire déjà, c'est que le passé a réussi à lier le passé des anciens, donc Desmond, etc., et en même temps de lier le film qui est sorti.
Ouais, c'est vrai.
Et ça, moi, je trouve ça génial.
C'est vrai.
C'est-à-dire que il parle de Sophia Rikin qui est Marion Cotillard dans le film.
Ah, c'est bien, c'est dommage que ça soit.
Et de Alain Rickin, et il parle aussi des attentats qui ont lieu dans le film à la fin, à Londres.
Ah, c'est bien.
J'ai trouvé ça super. Le fait d'assumer ce cross-média, même si le film.
Il n'a pas connu un succès.
Il l'assume. Voilà, ça fait partie. Et ton personnage du présent discute avec Sophie Rikin d'ailleurs par message. Et alors sinon, pour parler maintenant du gros, donc ce qui est l'Égypte, la première chose qui nous vient, déjà ce qui est assez rigolo, c'est que le jeu, quand vous le commencez, il vous apprend pas à faire du parcours. Pour une fois, dans un Assassin's Creed, il t'apprend pas à faire du parcours. Il t'apprend les nouvelles mécaniques de gameplay, qui alors du coup, on peut les comparer à Dark Souls dans le sens où c'est les mêmes touches. C'est gâchette droite pour les coups légers et gâchette et enfin bouton droit de la gâchette pour les coups légers et gâchette pour les coups lourds. Ça, okay. C'est le seul rapprochement qu'on pourra faire avec Assassin's Creed ou Dark Souls ou Bloodborne. Mais après, c'est un gameplay plutôt nerveux. Et ce qu'il y a à dire, c'est qu'en fait, le jeu te montre la map et te dit, voilà, t'as une carte de l'Egypte.
Débrouille-toi.
Tu as des zones avec des différents levels. Débrouille-toi. Le jeu ne t'indique pas le point de la quête principale.
Ah, ça, c'est bien. Ils arrêtent de te prendre par la main. C'est cool.
Le jeu ne te prend pas par la main. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé du coup dans une première zone. Après, il m'a dit, voilà, il faut que tu ailles à Alexandrie pour continuer la quête principale. Je suis allé voir dans le menu. J'ai vu qu'en fait, il fallait être à un niveau 1 supérieur. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais faire les quêtes. Je vais aller, voilà. Et du coup, tu te retrouves avec des petites zones, avec des quêtes de zones, on va dire. Genre, par exemple, t'arrives dans une zone où il y a des hippopotames, faut chasser l'hippopotame. Tu te retrouves avec des quêtes secondaires plutôt bien écrites. Ou des fois, tu te retrouves avec des retournements de situation. Moi, je me suis retrouvé là dernièrement, par exemple, avec quelqu'un qui voulait chercher un secret dans les vieilles pyramides. Et du coup, je l'ai aidé, on a réussi à trouver en fait le secret. Je me suis retrouvé avec des quêtes où justement il y a un jeune homme qui veut devenir philosophe, et du coup, je l'ai un peu aidé parce qu'il se faisait emmerder par les soldats de Ptolémée, qui est le pharaon pour le moment en Égypte. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que oui, au début, ma première sensation, c'est de me dire, c'était pas un Assassin's Creed, c'est que j'avais vraiment l'impression de jouer à un autre jeu. Je saurais pas dire quel jeu, mais pour l'instant,
c'est un vrai renouveau dans la franchise.
C'est un gros renouveau et j'ai l'impression vraiment de jouer à un nouveau jeu. Et
c'est cool.
J'avance pas. Je suis à 13 heures de jeu. Uplay me dit que je suis à 39% du jeu.
Ouf.
Et pourtant, je n'avance pas le solo. Le solo, franchement, l'histoire principale, pour l'instant, moi, je fais toutes les quêtes secondaires. Ouais. Je vais fouiller les.
Tout ce qu'il y a à t'apporter, en fait.
Voilà, je vais fouiller les pyramides pour trouver. Bah, du coup, c'est ce côté RPG, c'est que du coup, vous avez pas mal de stuff avec une interface à la Destiny. C'est-à-dire, okay. Du coup, les armes, etc. Vous avez des points de compétences avec trois arbres de compétences différents. Et du coup, moi, j'essaie du coup d'avoir, par exemple, un stuff doré qui est un stuff légendaire, un stuff violet, un stuff bleu, etc. etc. Et j'ai peu de temps du coup pour en parler, peut-être que j'en parlerai une prochaine fois.
Quand on aura plus avancé.
Quand j'aurai fini le jeu, peut-être par rapport à des retours. Le seul défaut que j'aurais à dire pour le moment, c'est que je suis un peu déçu pour les pyramides. Je m'attendais, je sais pas, à avoir des tombeaux d'assassins en fait. Et en fait, finalement, tu n'es juste. Comme je pense qu'ils ont essayé de faire ce qu'il y avait vraiment dans les pyramides. Et donc, tu te retrouves juste avec le tombeau. Et voilà. Mais pour le moment, c'est un jeu optimisé sur PC qui bug pas trop.
Oh.
Oui, on déjà beaucoup.
Visuellement époustouflant et surtout à des différences. Genre, par exemple, Alexandrie, c'est très beau, c'est moderne. T'as envie de dire, putain, pourquoi ça a été détruit tous ces temples égyptiens. Et là, je suis à la ville de Memphis qui est dans la gadoue. Les couleurs sont sombres, alors que Alexandrie est très contrastée dans les bleus et les oranges, qui la rend très jolie. Et de me dire, putain, la frayeur qu'on pouvait avoir dans le désert, c'est de se dire que tout se ressemblerait. Et pour l'instant, j'ai l'impression vraiment que l'univers est dense. Et pour finir, il y a vraiment les personnages ont vraiment des boucles, c'est-à-dire que un personnage peut être en train de travailler, après il peut être en train de manger, après il peut être en train de dormir. À un moment, j'avais une quête à faire pour aller voir un marchand. Le jeu m'a dit c'est la nuit, le marchand n'est plus en train de travailler, il faut que tu ailles le voir dans sa maison. Et d'accord. Le marchand était vraiment à sa maison.
Oui,
et okay. C'est ça pour beaucoup de choses, genre tu peux voir des gardes en train de pisser, en train de manger, et du coup tu peux les assassiner pendant qu'ils dorment parce qu'ils sont en train de faire leur sieste. Et enfin voilà, c'est que du coup l'univers est cohérent.
D'accord.
C'est là où je m'arrêterai, c'est que voilà, ils ont enfin réussi de faire quelque chose où t'y crois.
Parfait. Et eh ben on viendra dessus, hein, je pense une prochaine fois.
Quand tu as fini, tu leur dis.
Du coup, on va s'arrêter là hein, pour les chroniques. On va passer directement à la partie débat. Et je crois que
on a une petite musique.
Je crois qu'effectivement, Sushi essaye de communiquer. Ok, cette fois on passe au débat et au creepypasta. Hein. Vous le savez, ces histoires d'horreur sur le jeu vidéo pouvant être vraies ou fausses selon l'interprétation que vous en ferez. À vous de juger, à nous de raconter, et du coup je me permets de commencer. Zelda étant ma série préférée, l'histoire portera donc sur cette saga et sur un jeu en particulier, Majora's Mask.
L'histoire commence le 7 septembre 2010 sur le célèbre forum 4chan. Un homme se faisant appeler Jeduzabol qui raconte son histoire à la communauté. Il avait récemment déménagé dans une chambre d'étudiant pour son entrée en fac. S'ennuyant lors de ses temps libres, il décida de rapatrier sa Nintendo 64 ainsi que son unique jeu de l'époque, Super Smash Bros. Mais très vite, la lassitude le reprenait, et il décida d'aller faire un tour sur le vide-grenier organisé dans sa région. Il parcourait donc les stands, un à un, à la recherche de nouveaux jeux pour sa console, mais ne trouva rien. Alors qu'il allait repartir chez lui, un peu déçu, il vit un stand qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Sur ce stand se tenait un homme aveugle qui vendait divers babioles. Jeduzabol lui demanda s'il n'avait pas par hasard quelques vieux jeux en réserve. Le vieil homme le fit attendre et lui ramena une cartouche de Zelda Majora's Mask. Le vieil homme lui dit qu'elle appartenait à son fils qui était mort dans un accident, voilà des années, et qui n'en avait du coup aucune utilité. Il lui en fit donc cadeau, la cartouche étant d'ailleurs un peu abîmée, il décida du coup de lui offrir. Une fois rentré chez lui et content de sa découverte, il décida de lancer le jeu immédiatement. Il trouva alors une sauvegarde au nom de Ben, qui était sans doute celle du garçon, et, plutôt que de l'effacer, décida de l'essayer. La partie était très bien avancée, mais il y a plus étrange, le jeu était buggé, des textures manquaient, les personnages non-joueurs l'appelaient soit Ben, soit Link. Il décide donc de refaire une nouvelle partie sans effacer la précédente, mais il ne savait pas encore ce qu'il attendait. Quelque chose de bien plus effrayant qu'il n'aurait pu l'imaginer. Plutôt débrouillard en informatique, il trouva le moyen d'enregistrer sa nouvelle partie sur son ordinateur. Jeduzabol a dans cette vidéo tenté d'exploiter le bug du quatrième jour, qui permet d'éviter toute une partie fastidieuse du jeu très rapidement. Mais comme on le voit sur la vidéo, tout ne se passait pas comme prévu. Il se faisait systématiquement tuer et n'avait le contrôle sur rien. C'est alors que le message « You've met a terrible fate, haven't you ?» tu as fait quelque chose de terrible, n'est-ce pas, apparu. Jeduzabol eut un moment de sursaut et refusa à croire que le jeu tentait d'établir un contact avec lui et redémarra la console sans ménagement. Jeduzabol fit également une vidéo de la partie de l'ancien propriétaire, Ben. Première constatation, le nom de sa sauvegarde avait changé en « Your turn », donc « ton tour ». Il décida malgré tout d'essayer la partie de Ben. C'est à partir de cet instant où il découvrit, en plus des nombreux bugs et autres défaillances, ce qui allait devenir son pire cauchemar, la statue de Link. Héritée d'une des magies du jeu avec laquelle on peut, via une mélodie d'ocarina, invoquer une réplique de soi sous la forme d'une statue, afin par exemple de maintenir le bouton d'une porte. Cette statue à l'aspect de base assez effrayant prend ici une toute autre dimension. Malgré cette découverte terrifiante, Jeduzabol continua à tenir un journal de bord détaillé dans lequel il nota absolument tout. La statuette semblait le guider vers un endroit précis et l'amena, comme on peut le voir dans la vidéo qu'il avait enregistrée, jusqu'au fond du lac Ilia, où il la retrouva à la toute fin de cette vidéo. Instantanément après, son personnage se noya, chose qui est impossible lorsqu'on est transformé en Zora, donc la célèbre créature marine du monde de Zelda. Cette découverte plus que perturbante l'effraya. Il ne put d'ailleurs pas dormir la nuit suivante et en fit même régulièrement des cauchemars. Il décida par ailleurs de ne plus jouer au jeu et tenta de l'oublier quelque temps afin de ne pas devenir fou. Mais l'humain étant ce qu'il est, la curiosité était trop forte et malgré tout, il décida quelques jours après de relancer directement sa partie. Le nom de sa partie s'était cette fois transformé en Drone, noyé, et il vit une nouvelle fois des choses bien étranges. Première surprise, le jeu le ramena à l'introduction du jeu, régulièrement parasité par de nombreux bugs de dialogue. Le moment où il aurait dû être transformé en peste mojo, donc après l'apparition du méchant au début, ne se fit pas non plus. Le jeu l'invita même à jouer une musique alors qu'il ne disposait d'aucun instrument. Cette musique qui était jouée était celle dont je vous parlais précédemment, celle qui permettait d'invoquer cette statue effrayante, réplique du héros. S'affiche alors une nouvelle fois le message « You shouldn't have done that », donc on le rappelle, hein, « Tu n'aurais pas dû faire ça ». Qui le téléporte dans une grotte, puis dans un magasin, etc. À chaque fois, le message apparaît et se fait de plus en plus menaçant. Puis il est téléporté sur la plaine de fin du jeu, avec la statue se rapprochant et un message « Ben is lonely », « Ben est seul ». Puis « Back to where it all began », retourne là où tout a commencé, et enfin « Come play with us », viens jouer avec nous. Le jeu redémarre alors, laissant apercevoir le nom de sa sauvegarde tel qu'il l'avait appelé à l'époque, Link. Entre-temps, son histoire passionna l'internet tout entier, Il reçut des milliers de messages de tous bords, mais restait toujours très discret, craignant que Ben épie ses faits et gestes. Aucune de ses vidéos ne fut d'ailleurs postée par Jeduzebel, mais par son colocataire de l'époque. Jeduzebel lui laissa donc le soin de publier l'histoire complète qu'il avait écrite, ainsi que les vidéos et les dates à laquelle il devait les publier, car Jeduzebel en était incapable. Chaque fois qu'il tentait de mettre une vidéo en ligne, sa connexion internet se coupait. Simple problème de courant ou présence d'outre-tombe, malheureusement nous ne le saurons jamais. Toujours est-il que Jeduzebel partit quelques jours après avoir enregistré sa dernière vidéo et quitta définitivement la ville. Son colocataire voyait bien qu'il était effrayé. Jeduzebel était cerné, avait perdu du poids, son discours devenait incohérent. Et devant sa grande détresse, son colocataire accepta finalement de suivre ses instructions. Comme promis, il publia l'histoire et les vidéos une à une et fut fasciné et effrayé par la chose. Il ne regarda pas en revanche la dernière vidéo avant le jour J, le 15 septembre de cette même année 2010. Pour l'avoir vu, un peu de choses à vous dire sur cette vidéo, plutôt libre d'interprétation, mais l'explication la plus probable semble qu'à travers le jeu, Ben essayait d'expliquer la façon dont il était mort. Des bribes sur internet parlent d'un père violent qui l'aurait battu si fort qu'il en serait mort et l'aurait jeté au milieu d'un lac pour se débarrasser du corps. Encore une fois, il est très difficile de retrouver les éléments concordants à cette histoire. Donc, il se peut fortement que cette histoire soit complètement vraie. Du coup, je vais laisser la place au suivant et on passe du coup à l'histoire suivante.
Pokémon, c'est beaucoup de souvenirs pour tout le monde. Vous vous souvenez, la version bleue, la version rouge en France, du carton. Ce jeu nouveau, ce phénomène de mode. Mais est-ce que vous savez que Pokémon rouge et bleu, au Japon, s'appelait d'abord Pokémon rouge et vert. Pourquoi ce changement de nom? Pourquoi d'un coup d'une version verte, avec Florizarre sur la jaquette, nous sommes passés à une version bleue avec Tortank? Ceci a peut-être une explication un peu plus bizarre, un peu plus inquiétante. Vous vous souvenez? C'est le thème de la ville, de l'avant-ville. Dans Pokémon, on traverse toute une map, toute une carte, avec différentes étapes. À chaque fois avec une musique joyeuse, entraînante. Avec des villes, avec des thèmes sympathiques. L'eau, la pêche, la musée, etc. Sauf que quand on arrive à l'avant-ville, tout change. Cette ville a comme particularité d'avoir une tour cimetière. Un espèce de temple où tous les Pokémon morts sont enterrés. Et l'ambiance est lourde. Tous les gens sont tristes. On parle de mort, de deuil. On parle de décès. On parle de tristesse. Oh, bien sûr, on y affronte la Team Rocket comme d'habitude. Sauf que on y affronte aussi des fantômes. Et les fantômes de certains Pokémon morts, tués au combat ou tués par des humains. Quel univers lourd. Et particulièrement, qui renforce de ça, c'est la BO. L'OST, cette musique. Cette musique glaçante, mélancolique. Une mélodie avec un tempo très lent. Avec des aigus, puis des ultrasons, pour certains. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Pokémon est sorti au Japon Pokémon version verte et version rouge, et chez nous version rouge et bleu. Pour certains, c'est une commercialisation, c'est pour le commerce, c'est pour le marketing. D'autres pensent que la cause serait que cette musique aurait poussé, cette version originale, la musique version verte que vous entendez, aurait poussé des enfants à se suicider, à mettre fin à leur jour. Car cette musique utiliserait des fréquences suraiguës audibles uniquement par des enfants. Il paraîtrait que cette musique aurait été composée par Shin Nakamura, et que celui-ci se serait suicidé, et que de son suicide soit née cette musique. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ça se fait. Cette musique est dure à récupérer sur Internet, car la vraie version, la version verte, est très dure à trouver. Il y en a qui disent qu'ils peuvent rien qu'à entendre le début, les 30 secondes, ils subissent des maux de tête, des hurlements, de douleur, des maux. C'est très bizarre. Le mystère de l'avant-ville, le syndrome de l'avant-ville, comme certains l'appellent. C'est une légende, c'est un mythe, aucune idée. Pour l'instant, tout va bien. 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 Tout va bien.
Je vais vous parler, moi, d'une creepypasta à propos du jeu Minecraft. Bon, pour les deux personnes qui ne savent pas ce qu'est Minecraft, c'est un jeu développé par une seule personne, qui s'appelle Notch, qui a créé, du coup, Minecraft, au début sur PC. Et c'est un jeu bac à sable, où vous pouvez faire ce que vous voulez, en style pixel art. Donc, tout se joue avec des formes de cubes. Le jeu fut un énorme succès, il s'est vendu plus de des millions et des millions d'unités, ayant franchi même le milliard de recettes. Maintenant, c'est un jeu qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes possibles, allant du PC, à la 3DS, à la Switch, PS4, Xbox One, avec maintenant une compatibilité entre la Xbox One, le PC et le téléphone, grâce à la dernière mise à jour du jeu. Alors, ce qu'il faut savoir du coup sur cette creepypasta, c'est quelque chose qui sort pas mal sur les forums de Minecraft. Pour tous les fans de Minecraft, du coup, ça va plutôt les intéresser. Alors, cette creepypasta, ça parle du personnage d'Herobrine. Herobrine, c'est un personnage, c'est une légende qui circule donc sur la communauté de Minecraft. C'est un personnage humain, souvent représenté avec le skin par défaut du jeu, mais la seule particularité qu'il a, c'est qu'il a les yeux blancs, qui serait en fait une créature possédant des pouvoirs surnaturels. Herobrine, il est aussi appelé Him. L'histoire du personnage trouve ses origines donc dans cette creepypasta diffusée sur le web. Celle-ci raconte l'histoire d'un joueur de Minecraft ayant rencontré lors d'une de ses parties un personnage mystérieux, assez bizarre, qui, selon ses dires, se révélerait être l'incarnation d'un frère décédé de Notch, donc le créateur du jeu vidéo, et que aujourd'hui il se venge sur tous les joueurs de Minecraft qu'il rencontre. Et depuis ce jour-là, de nombreuses légendes se sont tissées autour de son histoire, attribuant à la créature divers pouvoirs et plusieurs explications de son origine. Toujours dans la partie légendaire, Herobrine crée des constructions aléatoires qu'elle il peut construire, par exemple des pyramides ou encore des tunnels de deux blocs de haut. Il peut brûler n'importe quoi sur son passage, il peut couper des feuilles des arbres qu'il rencontre, il peut lancer des éclairs sur les joueurs, se le déporter derrière lui, ouvrir des portes en fer sans système d'ouverture. Il se peut qu'il crée également des salles souterraines complexes en pierre ressemblant à des donjons avec des torches de redstone allumées. Posées sur les murs, elles apparaissent souvent lorsqu'il y a du brouillard et il y a une distance d'affichage courte pour surprendre le joueur. Il y a différentes versions de Herobrine, du coup. Il y en a, voici quelques-unes. Il y a le harceleur. Le harceleur, donc, c'est la version qui traque les joueurs en lui disant « Bonjour, tu vas disparaître » ou « Derrière toi ». Et l'idée, donc, c'est de faire peur aux joueurs et de lui dire qu'il va mourir. Il y a la version mineure aussi de Herobrine, qui, lui, est un mineur qui tente de piéger les joueurs pour leur voler les ressources. Et il fait, du coup, des pièges avec différents outils, dont des plaques de pression reliées à de la TNT. Donc, il peut utiliser aussi des pièges assez sophistiqués. Et puis enfin, il y a la version hostile aussi de Herobrine, et qui apparaît derrière vous lorsqu'il fait très sombre et qui vous attaque pour vous tuer. Donc là, c'est la version harceleur, mais là, en passant vraiment à l'offensive, et du coup, elle peut vous tuer. Et alors, du coup, bon, c'était quelque chose qui était apparu il y a longtemps, et Mojang, donc le développeur du jeu, le éditeur du jeu, n'a aucun lien avec ce même. Lorsque Notch en a appris l'existence, elle en a ailleurs dû nier l'idée selon laquelle ce personnage serait son frère décédé. Donc Notch, le créateur, nie totalement, mais c'est ça qui fait le charme, je pense, de toute Creepypasta, c'est de laisser le flou. Et du coup, Notch a dit, à propos du Herobrine, « Cette histoire d'Herobrine est à la fois géniale et effrayante. Elle montre vraiment à quel point un créateur n'a pas vraiment de contrôle sur ses créations. J'ai dit en public qu'il n'y a jamais eu de Herobrine et que je n'ai pas de frère mort, et que faire mourir plein d'animaux dans la lave est une méthode infaillible pour l'invoquer, mais qu'il ne faut pas avoir peur de lui. » Et voilà. Enfin, donc tout ça pour dire que c'est assez rigolo, c'est que une fois de plus, c'est la communauté qui a réussi à créer un mythe, et le mythe est devenu réalité à force d'entendre des bruits de couloir à ce propos, et de l'idée donc est de continuer à faire avancer le mythe pour le laisser exister encore et encore. Voilà.
Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Polybius. C'est un jeu un petit peu spécial, c'est un jeu d'arcade qui a une histoire derrière un petit peu mystérieuse. Tout commence dans les années 2000, quand sur un site de machines d'arcade, quelqu'un met une annonce, enfin pas une annonce, mais un répertorie en fait dans le site, un jeu qui s'appelle Polybius, et que personne ne connaît. Et il raconte que justement dans sa ville en Oregon, ça aurait été un jeu qui aurait été là pendant très peu de temps et qui était très 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 addictif. Alors du coup, les gens ont essayé de savoir un petit peu plus ce qu'il y avait sur ce jeu. Pourquoi est-ce que le mec avait une machine, enfin avait pour connaissance une machine que personne d'autre ne connaissait. Et le mec raconte que lui, il a une image CD du jeu, c'est-à-dire enfin, il a le programme du jeu, et que c'était une machine qui était assez rare, que personne d'autre ne la trouvait. Ce qui s'est passé, c'est que cette même personne raconte que dans sa ville, le jeu était très très demandé, en fait, dans les années... Il serait sorti en 1981, donc on est vraiment dans l'âge d'or des salles d'arcade, des machines d'arcade à la Pong, voilà, on parle vraiment des anciens jeux. Et ce qui se passe, c'est que tout le temps une file d'attente devant Polybius, tout le temps beaucoup beaucoup de monde, et que ça aurait été carrément la source de disputes en fait, pour savoir qui allait jouer le suivant. Et donc c'est là où ça commence à devenir un petit peu creepy, un petit peu bizarre, c'est que apparemment il y aurait des hommes en noir qui venaient voir la machine une fois de temps en temps pour récupérer des données et puis interroger des gens. Et l'histoire devient encore un petit peu plus sombre parce que la machine ne serait restée qu'un mois, justement, dans la salle d'arcade en Oregon, et aurait mystérieusement disparu. Et alors c'est là que toutes les histoires commencent. Certains pensent que, justement, c'était une machine qui était faite exprès, avec un programme, justement, qui rendait le jeu addictif, pour voir si on pouvait faire si on pouvait, comment dire, déclencher des symptômes chez les gens qui y jouaient. Et tout ça a été vite lié au programme MK Ultra, qui était un programme américain justement pour contrôler l'esprit des gens. Et donc c'est là où ça devient fou, c'est que à partir de justement, c'est de là d'où est née la légende urbaine, à partir de ce jeu où dont personne n'a jamais su s'il existait, en fait, c'est là où c'est réellement intéressant, sont nés une flopée de légendes urbaines sur ce jeu, et des gens se sont mis à faire leur propre faux cabinet, propre faux salle machine d'arcade de Polybius, pour justement faire croire que eux ils l'avaient, et que non, ils avaient bien retrouvé la machine. Et c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui justement cette anecdote, parce que justement elle a suscité vraiment pas mal de choses. C'est des gens qui cherchaient cet objet, c'est pas juste un petit programme ou juste quelque chose qui a été fait, même si c'est probablement inventé de toutes pièces, mais c'est des gens qui ont réussi à essayer, à vraiment entretenir le mythe de Polybius, cette machine d'arcade justement qui est maintenant devenue presque légendaire. Allez, à la prochaine.
Alors, un coup de ça de Satan.
Donc, effectivement, là, c'est. Voilà, donc vous avez entendu les creepypastas pendant tout ce temps.
Ah, c'était sympa. Hein.
C'était sympa, sauf qu'il s'est passé deux choses. C'est que, pour vous qui nous écoutez à la radio, on a fait un Facebook Live en même temps sur lequel on a détaillé un petit peu tout ce qu'on faisait. Donc, vous qui n'êtes pas au courant à la radio, nous vous l'annonçons à partir de maintenant. C'est la faute à la manette, c'est une émission qu'on aime, c'est une émission qui malheureusement arrive au bout de son concept, en tout cas radiophonique. Cette 50e émission, c'est donc la dernière que vous entendrez sur les ondes de Radio Campus. On a beaucoup de choses qui vont se passer, on va devenir indépendant, on aura beaucoup de choses aussi à vous communiquer, notamment sur la page Facebook. Si vous voulez plus de détails, allez voir le Facebook Live, on a tout résumé sur 23 minutes, ce qui est assez long. Voilà. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que donc cette 50e est vraiment la dernière émission
enregistrée ici.
On s'arrête là, et à partir de dans deux semaines, on se retrouve directement sur le Facebook Live. On aura aussi de l'audio, on aura aussi de la vidéo, un format plus long, plein de nouvelles choses. En tout cas,
c'est la fin.
N'espérez pas nous réentendre dans deux semaines
sur cette onde, voilà.
Puisque de toute façon, de notre côté, c'est terminé. On est tous d'accord. Tout le monde a été au courant, même Radio Campus. On a échangé avec eux. Pas de soucis, tout le monde est au courant. On fait pas ça en coup de pute, hein, bien sûr. Donc pour nous, voilà, c'est un moment important. C'est un moment important, peut-être pas. Pour la radio en général, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on avait besoin d'indépendance, de changer des choses. J'ai l'impression de me répéter, mais effectivement, vous l'aviez pas entendu. voilà, on prend notre indépendance, on va faire des choses nouvelles, des choses intéressantes.
Et on va les faire pour nous.
L'esprit de Sushi, hein, qui plane sur cette émission, nous aura au moins permis d'introduire le fait que ce soit des creepypastas.
Donc, la prochaine fois, on pourra introduire des trucs plus salaces.
Pas une histoire d'horreur, nous arrêtons effectivement.
Donc, pour toi qui écoutes soit sur internet, soit dans ta voiture, notre émission. Hein, si tu existes, et on t'aime, hein, sache qu'on t'aime. Voilà, c'est la dernière fois que tu vas nous écouter par ce biais-là. Donc maintenant,
si tu as une photo de profil avec
un
Phantom Pain, on tient à le rappeler.
Vraiment, bon,
est-ce qu'on peut rappeler où nous trouver?
Alors, vous pouvez nous retrouver. Alors, sur deux choses en particulier, la page Facebook qui est toujours très active, hein, sur lequel
c'est la faute à la manette.
Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire?
C'est la faute à la manette.
La faute à la manette.
La faute à la manette.
La faute à la manette. On a aussi un Twitter qui deviendra de plus en plus actif.
Et qui est déjà bien.
Ouais, perdu, il est un bon CM.
La faute à la manette aussi.
C'est la faute à la manette sur Twitter.
Également, on rejoint un YouTube, effectivement, c'est la faute à la manette. Et on rejoint le collectif Marcher sur la Lune, qui nous permettra aussi d'avoir une visibilité un petit peu plus importante.
Parce qu'il y aura un site web www.marchersurlalune.com.
Effectivement.
Désolé de te couper la parole, c'était.
Non, mais pas de soucis. Voilà, je pense que on va d'ailleurs conclure bientôt cette dernière émission. J'aimerais que chacun dise un mot général très simple sur l'émission, qui durerait, on va dire, 20 secondes. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux
en
ans
20 secondes, ça fait un long mot.
Ces deux ans sur ces deux ans d'émission. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux ans d'émission? On commence par toi.
Moi, cette émission, elle est géniale et j'ai hâte de l'emmener ailleurs. Voilà. J'ai hâte qu'on grossisse, qu'on devienne, qu'on montre aux gens, qu'on continue à partager notre passion, sans avoir une espèce d'ordre supérieur au-dessus de nos têtes qui nous demande quoi faire et qui finalement nous donne des ordres sans nous donner de merci. Très bien, ça va être pour nous et on va pouvoir tous ensemble.
Plus avancer. De reconnaissance, voilà, plus de pouces bleus.
Entre nous, voilà, c'est ça.
Tom,
eh ben, moi sur 2 ans, je me suis vraiment bien amusé en fait.
C'était Star Citizen n'est toujours pas sorti.
Star Citizen est toujours pas sorti depuis 2 ans. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé en fait, c'est que c'était une émission où on pouvait s'investir comme on voulait, c'est-à-dire faire des fois des gros investissements, des fois avoir la flemme et juste venir sans rien préparer. Donc moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé.
C'est que c'est fini ça.
Et ouais, c'est fini, je vais pouvoir encore plus rien branler. Donc voilà, c'était ça que j'ai particulièrement aimé. J'ai pas grand chose de négatif à dire sur cette émission, puisque je me suis pas intéressé suffisamment pour le coup, avec la logistique et tous les trucs administratifs pour que ça me retombe dessus. Mais voilà, pour moi, vraiment que des bonnes choses, donc j'ai hâte que ça continue.
Très bien. Guillaume ?
C'est vrai que c'était une bonne aventure, enfin, un début d'aventure, on va dire. C'était.
C'est un bon tutoriel.
C'était une idée lancée comme ça après un ciné qui a un peu germé et qu'au final on voit avec le temps. Au début on avait fait un pilote de 2 heures pour une émission d'une heure où on avait parlé pendant 1h10 de news,
ouais.
Donc on a quand même fait du chemin, je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise à l'oral,
on est plus
nous-mêmes et on espère qu'on le sera encore plus. Donc voilà, on a vu des gens, il y a eu des gens qui sont venus dans les locaux, je pense, ouais. À l'émission à l'association par exemple Born in the 80s,
c'est ça, Antistar,
voilà, enfin on a eu quelques rencontres intéressantes, c'est des gens en plus que maintenant je suis, et j'espère que ça continuera dans ce sens-là, voilà, de la rencontre tout autour de l'amour du jeu vidéo, et plus encore.
Très bien, je vais donc faire la conclusion, cette émission c'était donc mon bébé grandit de plus en plus, il atteint l'âge bête peut-être, hein, l'âge adolescent, je pense qu'il est temps de le laisser partir et de le laisser faire enfin ce qu'il a envie de faire. Je pense qu'on va conclure ici. Je vous dis merci à tous. Je vous dis au revoir. Je vous dis même adieu. Je pense
adieu les ondes.
Les bisous. Ici. Merci.
Allez.
Adieu à tous.
Au revoir.
Et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Allez, bisous, bisous.
Ciao.